I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Romain, qui vit en Russie et dont la petite fille Emma est atteinte d'une maladie génétique rare. Il raconte sa rencontre avec sa femme Sacha, qui est russe, le chemin qui l'a amené à sauter dans le grand bain de la paternité, ses doutes sur sa fertilité, jusqu'à la naissance de leur fille et ce moment où, au deuxième jour de sa vie, Emma a fait un arrêt cardiaque dont elle a failli ne pas revenir. Quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. Emma est atteinte d'une maladie génétique très rare qui touche une dizaine de familles en Russie. Romain nous raconte cette longue bataille contre la maladie et comment ils se sont adaptés, ce qu'ils ont appris dans cette période tumultueuse dont ils semblent à peu près sortis aujourd'hui, alors qu'Emma vient d'avoir 3 ans. Je vous laisse en compagnie du récit de Romain, un grand merci à lui pour sa confiance. On est avec Romain aujourd'hui, salut Romain.
Salut.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va bien. S'il y a un petit décalage entre toi et moi, Romain, c'est parce qu'on est à distance, et on est à distance à cause du confinement certes, mais aussi parce qu'on est à distance.
T'es en direct en Russie, Poutine nous suit, nous écoute.
Oh
le KGB, le FSB nous regarde attentivement, mais je pense qu'ils sont pas trop contre de ce genre de communication.
Ok, ça va. Comment on lui dit bonjour Vladimir alors
Non, faut faire comme si on savait pas aussi.
Tu m'as envoyé un mail, Romain, comme plein d'autres darons avant toi, sur mon email histoirededaron@gmail.com. N'hésitez pas, si d'ailleurs vous voulez m'envoyer un mail, vous êtes les bienvenus, pour me raconter ton histoire de papa. Si je me trompe pas, donc aujourd'hui effectivement ta particularité c'est que tu vis en Russie et que tu as une petite fille qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans j'imagine.
3 ans, elle a eu 3 ans il y a 2 semaines.
J'ai mis un peu de temps avant de te répondre. C'était cet été. En fait, tu vas nous expliquer un petit peu la particularité de ton histoire de papa. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Donc, tu as 35 ans, c'est ça ?
Ouais, j'ai 35 ans, je m'appelle donc Romain, je viens de région parisienne. Ça fait à peu près 9 ans que je vis en Russie. Je bosse dans la vidéo, enfin je suis réal. Je faisais mes études à Paris, j'ai fait des études en école de cinéma et après j'ai commencé un peu à bosser dans différents endroits à Paris, d'ailleurs notamment à Radio Nova, ce qui était une expérience hyper cool d'ailleurs.
Ah, j'imagine.
Et ça n'a pas duré très longtemps et puis après j'ai fait des petits boulots dans les petites prods, ça payait pas bien. Moi j'avais mon père qui bossait depuis 5 un peu plus de 5 ans en Russie. Et puis, à un moment donné, lui, il travaillait dans le milieu de la radio, enfin dans le milieu commercial de la radio. Mmh. Et il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Il me dit, ouais, dans la boîte où je bosse, ça y est, là, ça commence à venir le besoin de contenu vidéo. Il m'a dit, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Par contre, si ça t'intéresse, tu pourrais donc gérer tous les contenus ici vidéo. Mais il faut que tu parles russe. Je ne sais plus, j'avais peut-être 24, 25 ans. Et 24 ans, et en fait, tout de suite, j'ai dit, banco, ça me tente. Je suis parti à Saint-Pétersbourg pendant un peu moins d'un an, j'ai étudié le russe, j'ai fait la fête, j'ai fait un peu mon Erasmus, ouais. Parce que j'avais fait mes études à Paris, donc j'avais pas vraiment cette expérience d'Erasmus, c'était assez ouf. Et j'ai découvert donc, le monde russe, l'âme slave, qui est assez extraordinaire, qui est, contrairement un peu à ce qu'on peut croire, à toute le premier abord froid et brut, en fait, si c'est des gens bruts, c'est des gens entiers en fait. C'est des gens qui font pas semblant et c'est des gens qui sont extrêmement chaleureux en fait quand ils t'ouvrent leurs bras au final et qui font pas les choses à moitié. Donc voilà. Et ensuite, je suis revenu en France et à un moment donné, au bout d'un an, la porte s'est ouverte en 2011 et je suis venu. Et en fait, un peu ce que mon père m'avait vendu, ce qui m'avait motivé, c'est qu'il m'avait dit ici, il y a un truc, c'est qu'on fait confiance à la jeunesse. Et donc, on n'a pas peur de leur filer, même s'ils n'ont pas non plus énormément d'expérience, on n'a pas peur de leur filer des responsabilités un peu plus sérieuses que ce que... Voilà. Alors qu'en France, j'aurais mis une éternité pour me retrouver dans une position comme celle-là, je pense. Donc, Donc voilà, donc ça fait 8 ans que je bosse là-dedans et que derrière, je fais aussi beaucoup de freelance. J'ai fait mon petit trou petit à petit. Au début, je n'envisageais même pas de bosser au-delà de mon boulot à plein temps. Et à Moscou, il y a une telle énergie que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui avaient deux boulots en même temps. Ça bouge beaucoup. Et donc, j'ai commencé à me développer en freelance, donc, que ce soit des films corpo, docu, reportage, clip, pub télé. Et c'est cool. Voilà, ça bouge bien. Donc voilà pour la partie professionnelle. Ensuite, donc j'ai rencontré ma femme, ma future femme russe, ici. Tu me dis hein, si je le cadre de la question.
Vas-y.
J'ai rencontré ma femme russe ici, qui est photographe, qui donc en fait est rentrée dans la boîte où je suis. Et donc on s'est retrouvés à bosser énormément ensemble sur tous les projets de la radio, parce que moi là où je gérais la vidéo, elle gérait les photos. Donc on est devenus de plus en plus proches. Et voilà, on a commencé à une relation qui d'ailleurs s'est faite en Afrique du Sud quand on était en voyage, où on filmait des clients de la boîte, voyage RP.
Ouais.
Et voilà, ça a commencé là-dedans, donc c'était un cadre assez ouf, Safari et compagnie. Et puis ensuite, voilà, ça s'est développé petit à petit, on s'est mis à habiter ensemble. Ça a été difficile moi en tant que Français. Et puis en tant que mec un peu insouciant d'envisager le mariage, alors pour les Russes c'est un truc assez important et ça officialise vraiment la relation. Et ma femme elle est ouverte, mais voilà, donc en fait c'était un peu la guerre pour qu'à un moment donné je me décide.
Okay.
C'est passé comme pour beaucoup par une séparation et ensuite une prise de conscience pour moi que je voulais être avec elle. On s'est mariés et c'est là que j'ai appris petit à petit, et ça va être important pour la suite de l'histoire justement, ce que je veux dire là, c'est que c'est elle qui m'a vraiment appris l'esprit, on va dire, d'équipe dans un couple.
Ah oui, t'étais du genre moi d'abord et puis...
Non, j'étais pas moi d'abord, je réfléchissais pas. Je veux dire, vraiment, c'était moi, je voulais faire la fête, je voulais être avec elle. Moi, je voulais faire la fête jusqu'à 7h du matin et puis elle, à 2-3 heures, elle en avait marre, tu vois. Le cas classique, je pense. Et ça a été la question, est-ce que tu vas te calmer? Ou est-ce que tu veux continuer toute ta vie à t'éclater, à faire la fête et à mettre des jours à s'en remettre?
Vieillissant, ça ne s'arrange pas. Hein.
Exactement, c'est de pire en pire. Et derrière, où est-ce que tu veux un avenir? Est-ce que tu veux... Et puis, il n'y a jamais vraiment de souci de me dire est-ce que je l'aime ou pas, ou est-ce que... Voilà, c'était juste le souci, est-ce que j'arrive à voir plus loin que demain, quoi. Et puis, c'est arrivé, donc voilà. Et donc au final, de toute façon, je peux le dire, ma femme, c'est autant ma meilleure amie que ma femme, et c'est ce qui, je pense, qui joue beaucoup. Et quand on s'engueule très fort, et quand on s'aime, on s'aime très fort. Donc je suis très amoureux de ma femme, et voilà. Et ce qui fait que je pense qu'il nous a permis de traverser les épreuves dont on va parler.
Avant d'avoir votre petite fille, à aucun moment tu t'étais dit, moi, être papa, yes, let's go.
Si, ma femme a souvent dit ça, en fait, toi tu veux jamais être père, enfin voilà, parce que elle avait l'impression que je pensais qu'à faire la fête et que ça qui m'intéressait, enfin voilà. Non, pas du tout, je me suis toujours envisagé être père, je sais pas pourquoi, c'est peut-être lié à la relation que j'ai avec mon père, où il y a pas mal de choses, mais j'ai une image très forte du père, une admiration, une relation fusionnelle, je pense, et je me suis toujours dit que c'est pas forcément que je veux la même relation que j'ai avec mon père, parce que si on en parle à un moment donné, je pense pas du tout c'est ce que je veux, mais la sensibilité par rapport à ça, elle a toujours été très forte. Quand je vois des films avec des relations père-fils, c'est un truc, ça, ou même père-fille, hein, c'est pas ça le souci, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché, et non, vraiment aucun problème, même si ma femme en a douté longtemps. Ouais. Donc oui, ça n'a pas été du tout quelque chose de... C'était plus le passage au mariage et à la vie de couple concret et à construire un couple qui était plus difficile à envisager. Mais m'imaginer père, aucun souci, vraiment.
Je pense que ce n'est pas évident pour les mecs de venir se dire... OK, enfin, je ne sais pas comment tu as vécu, toi, justement, ce cap, ce passage de cap-là. Est-ce que tu avais la sensation, à un moment donné, de perdre ta jeunesse, de peut-être te devenir adulte?
Oui, si, sûrement. Enfin, de toute façon, même là, 35 ans, je n'ai pas envie de devenir adulte. Et je pense que tous, notre génération, ça fait partie aussi des choses que j'ai déjà entendues aborder dans tes podcasts ou dans d'autres, c'est que notre génération, donc les années 80, fin 80, 90, père et mère, je pense qu'on sera toujours un peu plus adulte, enfant adulte que les générations d'avant, qui a priori on leur a demandé d'être adulte beaucoup plus vite que nous on nous le demande. Donc, oui, par contre, passer le cap, ouais, la peur de vieillir, ça, elle est concrète, mais elle est plus là maintenant que je suis plus proche des 40 ans. Je sais pas, non, c'était vraiment, ouais, c'était une question d'insouciance en fait, c'était vraiment ça. Donc, c'était une attitude immature, on peut le dire comme ça, même totalement concrètement. Mais c'est ça, les hommes sont de toute façon plus immatures que les femmes. Est-ce que c'est par rapport à la société qui nous permet, nous, d'être plus immatures plus longtemps et qu'on demande aux femmes d'être responsables avant nous? Je sais pas.
Je pense que ça va dans les deux sens, de toute façon. Donc, comment ça se passe, ce projet de bébé, alors?
Donc, on se marie, c'était en 2016, en août 2016. Concrètement, c'était dans notre tête, ça viendrait dans l'année, ou sur un an ou deux ans, quoi.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Derrière, donc, on est parti en lune de miel 4 mois après le mariage, un truc dans le genre, en janvier donc 2017, bah ouais, c'est ça, en Nouvelle-Zélande. Et on avait prévu donc de tenter le coup là-bas, quoi. Comme on a un peu fait logiquement, on a fait la fête, on a pas mal bu et tout ça, elle était un peu flippée par l'idée de lancer le truc alors qu'on est en train de boire des coups et compagnie. Et elle était aussi flippée par l'idée de. Il y a beaucoup de fausses idées. Médicale, on va dire, en Russie. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, par exemple, l'idée d'être enceinte, tout juste enceinte, et de prendre l'avion, faire 12 heures d'avion, même plus, je crois, pour rentrer de Nouvelle-Zélande à la Russie, ça la mettait pas en confiance. Donc voilà, ils en ont plein, des trucs comme ça. Genre, les hommes doivent pas s'asseoir par terre à l'extérieur sur un sol mouillé ou froid. Parce que c'est pas bon pour les testicules, soi-disant. Et pareil pour les femmes. Donc, ils ont plein de trucs comme ça, des trucs un peu chelous. Et donc, derrière, on est rentré, et puis voilà, on s'est lancé. Et ça a été direct, quoi. Ça a marché d'un coup. Moi, justement, derrière, en plus, j'étais assez flippé. J'avais une phobie, mais j'ai fait pas mal la fête avant tout ça. J'ai fait autant boire beaucoup de coups que fumer des pétards dès l'âge de 15-16 ans. C'est quelque chose qui m'a un peu flingué la concentration, je considère, donc ne fumez pas à cet âge-là. C'est vraiment de la connerie. À 16-17 ans, je fumais tous les jours. Donc, mais oui. La plupart de mes potes autour de moi étaient comme ça. Enfin,
c'est l'entourage, de toute façon.
Ouais, bien sûr. Puis après, j'ai arrêté au bout de 5 ans, un truc dans le genre. Et voilà, la fête, j'étais dans des raves, enfin voilà, j'ai profité pas mal. Et j'étais persuadé que au mieux, on allait galérer de ouf pour faire un enfant. Au pire, j'étais stérile, tu vois. Donc, j'ai fait une petite phobie. J'ai fait le passage à l'hôpital, dans la petite chambre magique, pour faire un test de spermatozoïdes.
Ah ouais, donc tu l'avais anticipé déjà?
Mais je crois que c'était même avant le mariage. C'était un truc qui me faisait flipper depuis longtemps.
Ah, ok.
C'était le moment où c'était un an avant, j'avais déjà fait ma proposition, donc tout était lancé. Et je sais plus pourquoi, c'était pas dans le genre, on se dit, on fait ça dans 2 mois. C'était juste ce moment-là, commençait à me stresser de plus en plus. Et j'ai dit à Sacha, ma femme, viens, j'y vais, quoi. Elle est venue avec moi, encore une fois, preuve qu'on est une équipe. Elle n'est pas venue avec moi dans la chambre magique, avec les DVD et les... Les mecs, tu peux trouver tout ce que tu veux sur internet, eux ils trouvent quand même le moyen de te filer des DVD des années 90.
Moi j'ai fait pareil en France, c'était pareil hein. C'était vraiment du vieux porno des années 80 quoi, c'est dégueulasse.
Donc voilà, donc je l'ai fait et donc j'étais dans la moyenne, c'est je sais plus combien, je crois que c'est genre c'est dans les dizaines de millions et genre c'est un urologue on dit en français. Ouais, c'est ça, c'est qui est un ami en fait, okay. Et c'est assez pratique. M'avait dit, bah c'est bon, t'es dans la moyenne ou à peine en dessous de la moyenne. Mais le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes qui ont une baisse de spermatozoïdes de folie. Genre normalement, c'est 50-60 millions la moyenne, et les gars baissent à 20 millions, tout dans le genre. Enfin, il disait que c'était quelque chose d'assez alarmant. Et,
ok. Alors,
donc voilà, donc au final on a décidé de se lancer et ça a marché d'un coup. Donc voilà, c'était fait, ma femme a débarqué dans la chambre, les larmes aux yeux, je dormais encore et puis voilà, c'était magique en fait. Tous ces moments là fort avec Sacha, on les passe, on a une sensibilité, une sensibilité tous les deux qui est assez forte et on est assez en synchro là-dessus, donc ça c'est ce qui marche plutôt bien.
Comment s'est passée la grossesse ?
Bah vachement bien. On a fait les passages, les entraînements, préparation,
voilà. C'est ça, oui.
À chaque fois la veille, je trouve un moyen d'aller boire un coup avec des potes ou de boire un coup à la maison et j'allais débarquer aux préparations avec la gueule de bois. c'est un peu spécial aussi, mais
c'est les derniers prémices.
C'est ça. Non, franchement, tout s'est passé vraiment globalement bien, à part effectivement où elle a bossé donc jusqu'en juillet-août, donc jusqu'aux 7-8 mois, enfin je pense que c'est pareil qu'en France. Mmh. Et en fait, c'était compliqué quand elle descendait dans le métro, je sais pas si c'était la pression, mais elle a eu plusieurs fois, elle a failli s'évanouir dans le métro. Elle n'a pas eu des nausées constamment, elle n'a pas eu vraiment de vomissements, mais elle avait ce truc-là où effectivement, dans le métro, ça passait pas trop, quoi. Donc globalement, rien ne laissait prédire ce qui allait nous arriver. Suivi complet, on a fait les choses comme il fallait. Sacha n'a pas pris de médicaments spécifiques en plus. Voilà, globalement, on vivait le truc comme il fallait. J'ai essayé, moi, très influencé par Friends et par Ross qui parlait à son gamin, au premier bébé, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, j'ai essayé de faire ça. J'ai plus tard j'en ai entendu parler aussi dans tes podcasts et c'est mon cousin qui m'en avait parlé, qui a deux enfants, c'est l'aptonomie,
ouais.
Que je n'ai pas faite, mais que je compte vraiment faire si on a un deuxième enfant, parce que ça a l'air assez magique, quoi. Ça a l'air assez incroyable.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos-ciné, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
On en parle pas mal avec... j'en profite pour faire une petite aparté et une petite promo pour l'épisode. C'est avec Alexis, en fait, l'accouchement à domicile, il en parle pas mal, quoi.
C'est aussi un des derniers que j'ai écouté.
L'accouchement, comment ça s'est passé ?
C'était donc le vendredi soir. Elle a commencé à avoir des sortes de contractions. Donc on s'est préparé gentiment, pas de stress. Voilà, elle a pas perdu les os. Et on y est allé. Et donc ils ont dit qu'il était pas du tout dilaté, qu'il y avait rien. Voilà. Donc c'était limite s'ils nous avaient pas renvoyé à la maison, mais ils ont remarqué qu'il y avait un souci un peu. Emma, donc ma fille s'appelle Emma, elle avait le cœur qui battait un peu trop vite, donc ils ont décidé de la garder pour la nuit. Ils l'ont gardée, je suis retourné le lendemain, j'ai apporté plus d'affaires. À un moment donné, elle est allée voir notre... alors c'est pas la gynéco, c'est la... comment on dit... donc la sage-femme. Elle est allée la voir, donc elle a déclenché elle a fait un déclenchement, si je ne me trompe pas. Donc Sacha a perdu les seaux, elle l'a vu en fin d'après-midi samedi, 4 heures après, Sacha avait perdu les os. Moi, il y avait mon père donc, qui vivait toujours en Russie à cette époque-là. Ma sœur et ma mère étaient venues. Donc, j'avais toute ma famille qui était là. C'était vraiment l'équipe au complet. Coup de chance aussi, l'hôpital qu'on avait choisi était à un quart d'heure à pied de l'appartement de mon père. Donc, le samedi soir, je me couche à minuit dans le clic-clac de mon père avec ma sœur. Et à 1h du matin, Sacha m'appelle et dit « débarque ». Bouge-toi, débarque. Je suis arrivé en salle d'accouchement et puis Sacha était là, on était calme. Donc avec les préparations, on avait vu quelques trucs, notamment un truc qui a vachement bien marché. Apparemment, c'est le massage du bassin, du coccyx, pendant les contractions. Donc on a travaillé là-dessus. Moi, une sensation, comme pour tout homme, d'être inutile, de vouloir la soulager, de vouloir faire en sorte que ça se passe très vite. Quand j'entends parler, encore récemment, j'ai un bon ami à moi qui a accouché, enfin, dont la femme a accouché, et ça a duré 2 heures, tu vois. Et nous, donc à 1h du matin, ça a commencé. Emma est née à 10h30, 11h, tu vois, du mat.
Ah oui.
Donc ça a tenu longtemps. Vers 5-6 heures, ils ont posé la péridurale parce que ça, j'en pouvais plus, évidemment. Mais voilà, on bossait ensemble, on a été là jusqu'au bout. Le plus marrant, c'est qu'au début, elle voulait pas que le côté très russe, elle voulait pas que je assiste à l'accouchement. Ouais. Bon, moi en tant que Français quand même, avec notre culture et tout ça, je lui dis t'es gentil, chérie, mais là non, il est hors de question que je rate ça. J'avais des amis aussi autour de moi russes qui eux sont plus dans cette pas tous, hein, mais il y a quand même encore un peu cette mentalité du c'est le truc de la femme. Moi, ma belle-mère qui a accouché 3 filles, quand on en parlait, elle disait « Mais moi, j'aurais même pas voulu que mon mari soit là, je veux pas qu'il me voie dans cet état, je veux pas que nanana. » Enfin, c'est... Pour moi, ça sonne ridicule. Pour nous, je pense que ça sonne d'une certaine manière ridicule. Après, voilà.
Et ta femme, elle a accepté sans problème de ce
Alors, bah, elle a bien compris qu'elle pouvait pas de toute façon m'en empêcher. En fait, c'était juste un truc à la con. C'est que elle voulait pas. Elle avait peur de chier.
Ah,
de chier
oui.
dessus. Elle avait peur de déféquer. Et même si ça a été le cas, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc c'était ce truc qui la stressait. Quoi. Et je lui dis, ça doit arriver. De toute façon, je ne suis pas du côté où on voit où tu vas faire caca. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te déranger. Enfin, je ne vais pas aller regarder. Quoi. Et elle ne voulait pas que je regarde aussi. Quand Emma sortait, elle ne voulait pas que j'aille voir. Voilà. Justement, moi, je, encore une fois, avec le confinement et tout ça, j'ai quand même écouté beaucoup d'histoires de darons. Et donc j'ai écouté plusieurs personnes qui disaient que la relation après avec la partie sexualité avec sa femme et par rapport à tout ça, moi perso il y a un truc en tout cas que je voulais dire, c'est que j'ai quand même naturellement la séparation se fait directement quoi. C'est-à-dire que quand ma femme était enceinte, j'avais envie d'elle. On a pas trop fait, mais on a fait parfois l'amour quand elle était enceinte. Et l'après, dès qu'elle était, elle, capable, qu'elle se sentait capable, qu'il n'y avait plus de douleur, que tout était réglé, bah, on a recommencé. J'ai toujours une relation très sexuelle, très développée avec ma femme. On est voilà, très fusionnel aussi là-dessus. Et pendant l'accouchement, ça n'a pas été quelque chose du tout qui m'est rentré dedans, qui s'est mélangé avec le reste. Quoi. Enfin, je pense que c'est important de savoir faire la part des choses. Et en soi, ça ne doit pas être compliqué de pouvoir séparer les choses. Je ne sais pas, c'est comme séparer... le boulot et la vie privée, enfin, je sais pas, c'est...
Non, et puis je pense que c'est important aussi de le dire, que c'est pas parce que tu deviens papa, et notamment peut-être au futur papa et aux plus jeunes qui sont pas encore papa, des auditeurs, que en fait, c'est très possible de continuer à avoir une vie sexuelle après le moment où tu deviens papa.
Évidemment.
Donc c'est cool.
C'est très important, parce que c'est important dans le couple. Donc si à partir de là... En tout cas,
si c'est important pour vous dans votre couple, ça peut continuer à l'être après, quoi. Si tout le monde est d'accord avec le truc, quoi.
Mais donc voilà, au bout d'un moment, notre femme sage débarque et fait les gars, ça suffit, faut y aller maintenant là.
Ouais.
Donc ça a commencé petit à petit, voilà. Et puis le moment où je me suis enfin réellement 100% senti utile, et ma femme l'a confirmé plus tard, c'est qu'aux derniers efforts à donner, elle est dans un état second et elle dort, elle s'endort entre les poussées quoi, tellement elle est épuisée quoi.
Ah oui.
Et ce moment-là où effectivement ça je répète, maintenant ça suffit, il faut pas qu'Emma reste dans dans le couloir, faut qu'elle sorte quoi. Et donc c'est là où j'ai hurlé à Sacha, vas-y, pousse encore, en russe, c'est là, davai, ещё, davai. ça donne un côté un peu plus,
c'est ça.
un peu plus brut de pomme. Mais voilà, elle a réussi je pense que j'ai réussi à lui donner de la force et Emma est sortie et j'ai même jeté au moment où il y avait juste la tête, j'ai jeté un coup d'œil, Sacha était encore comment dire, consciente pour me dire non, regarde pas, tu vois. Et voilà, Elle est sortie, les deux secondes de gros stress où tu n'entends pas un bruit. Mmh. Et Emma qui se met à pleurer avec la bouche qui s'ouvre et l'air qui rentre enfin dans sa bouche. Et ma femme, et voilà, l'enfant qu'on pose sur le ventre de Sacha. Et les mots que Sacha, que je trouvais tellement touchants, qu'elle dit « salut ma puce ». Enfin, en russe, je ne sais pas comment le traduire exactement. « Salut ma puce, salut ma chérie ». Enfin, tu vois, tout de suite, c'était déjà personnifié, c'était Emma. Mmh. Et voilà. Et puis après, donc, j'ai fait un pot à pot. Je me suis retrouvé dans un coin tout seul parce que Sacha avait un léger déchirement, donc ils l'ont rafistolé. Entre temps, j'ai pu jeter un coup d'œil au plein SATA. Pareil, pas de souci, un gros morceau de bavette. il y a des tribus qui le mangent ou qui le font griller, je ne me rappelle plus.
Ouais, ou qui l'enterrent.
Ouais, ah oui, voilà, qui l'enterrent. Mm. Bref, tout ça, voilà, séparation totale. Et puis, et j'ai eu ce moment magique, exceptionnel. D'énormes sentiments de responsabilité et d'amour, d'être tout seul pendant 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas combien de temps, avec Emma, que je tenais près de mon visage et je regardais ses yeux et elle lui promet tout, quoi. Laisse-moi remettre un peu les choses dans la tête. Donc, on est rentrés. Ils ont mis Emma, alors pas dans une couveuse, mais ils ont mis Emma dans une salle avec d'autres bébés. Sacha est allé se reposer. Moi, je suis resté un peu et puis je suis rentré chez moi, chez mon père, où il y avait donc mes beaux-parents, mes parents, ma sœur. Et voilà, on a ouvert les bouteilles, on a fêté ça en bonne et due forme, et j'ai même un ou deux potes qui sont passés, enfin c'était super, Sacha dormait, donc voilà, bon, j'avais quand même presque deux nuits blanches dans la tête, non pas deux nuits blanches, mais je dormais plus depuis presque 48 heures.
Ok.
Donc, ce qui fait que j'ai fait un peu à cause du trop plein d'alcool, j'ai fait des hallucinations. En fait, je voyais rouge partout.
Ah ouais.
Et donc, je pense que quand même, malgré tout, on a un choc au final. C'est ça en tant qu'homme, on subit quand même un choc. Comme aussi pour la femme, c'est une forme de choc aussi la naissance quand même. C'est peut-être, non, je sais pas si c'est un choc plus physique pour l'un et plus psychologique pour l'autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on subit pas le choc physique de toute façon.
Mais c'est sûr.
Mais on subit un choc psychologique d'une certaine
émotionnel,
manière.
Émotionnel, ouais.
Émotionnel, donc je me suis mis à pleurer devant mes parents. Alors mes beaux-parents, il n'y avait plus personne, c'était juste avant d'aller se coucher. J'ai commencé à délirer en disant « je vois rouge partout, mais vous ne vous rendez pas compte, elle a eu tellement mal ». J'étais en train de faire une petite comédie, j'en faisais des caisses, mais c'est ce que je ressentais au fond de moi. Voilà, on avait vu du sang et elle écoutait sa femme hurler de douleur. Et devoir dire en fait c'est normal, il faut que ça arrive, il faut que ça passe, voilà, ça, à un moment donné tu te dis merde quoi.
Mais ouais, c'est la vie. C'est un truc qui est compliqué quoi. Le lendemain,
on arrive dès le matin, Emma est magnifique, elle a une bouille d'amour, enfin elle est vraiment, mon bébé est un bébé magnifique comme tous les bébés pour tous les parents. Les visites sont personne par personne, donc moi j'amène la belle-mère, ensuite j'amène ma mère. Donc voilà, la journée se passe. Heureusement, à ce moment-là, et on va comprendre pourquoi, heureusement, ils avaient accepté de mettre Emma dans la chambre avec Sacha. On ne se rendait pas compte, on ne sait pas, c'est la première naissance, mais Emma commençait à avoir un côté un peu, pas faible, mais elle criait d'une manière très, très faiblarde, on va dire. Les petits pleurs d'un bébé, normalement, qui est censé hurler très fort, c'était des petits cris tout mignons, quoi. Et en fait, c'était pas normal. Vers 17h, je ramène ma mère, je fais quelques trucs à la maison, chez mon père. Et à 19h, je prends mon père dans la voiture et je fais, à ton tour, on y va. On rentre dans l'hôpital et on rentre dans le service maternité. Et là, je vois Sacha en pleurs, dévasté, au milieu du couloir. Et qui me regarde en pleurant, elle me dit, ils viennent de l'emmener, elle respirait plus. Donc là... mon père et moi, on se regarde, je la prends dans mes bras, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de l'emmener en réanimation, elle respirait plus, j'ai remarqué qu'elle respirait plus, je l'ai donné à une infirmière qui au début ne voulait pas me croire, et elle l'a vu, elle l'a foncé en réanimation. Donc à partir de là, on est parti, donc dans l'autre service, on est parti à côté de la réa. Et puis là, par moment, une infirmière sort, nous dit que c'est en cours, que... Voilà, je ne sais plus exactement. Alors, c'est là où j'espère que je vais réussir à redonner un peu tout ce qui est le cours des choses. Ça va être un peu...
Tu n'es pas obligé d'être exhaustif si tu veux. Tu vois, faut juste... la façon dont tu as vécu le truc.
On a même l'infirmière qui a amené Emma était elle en pleurs. Enfin, tout le monde, c'est quelque chose qui arrive d'une manière tellement inattendue que tout le monde était sous le choc, quoi. Et donc, au bout d'un moment, on nous fait comprendre qu'elle a été réanimée. Le gars de qui l'a réanimée, que sa vie soit longue à jamais, puis qui nous dit voilà, donc c'est très sérieux, qui nous regarde, qui dit bah, écoutez, on vient de la réanimer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement combien de temps elle a été sans oxygène. Donc, combien de temps elle a été sans respirer en arrêt cardiaque. Premier coup de la Providence, on nous dit qu'en fait, dans ce genre de situation, on a des trucs qui marchent extrêmement bien. C'est une machine, en fait, qui sert à refroidir le corps et le cerveau de quelques degrés. Ce qui fait, en fait, c'est pas de la cryogénisation, mais c'est un nom spécifique, je ne me rappelle plus exactement. Ce qui paraît, apparemment, il se trouve qu'à ce moment-là, cette machine, il y en a genre quelques-unes à Moscou qui sont dans les différents services, et que par chance, aujourd'hui, la machine était dans ce service-là. Et que c'était une question de minutes, enfin pas de minutes, de dizaines de minutes, ils ne l'avaient pas encore fait, mais ils avaient besoin de notre autorisation pour le faire. Je commence déjà à avoir la voix qui tremble un petit peu.
T'inquiète.
Donc, évidemment, on a donné notre accord parce que c'est quelque chose qui permet de ralentir le risque de perte de neurones, en fait. Donc, oui, direct, ok, faisons-le, si c'est la seule solution, vous faites confiance, faites-le. Faites ça tout de suite. Donc, en fait, ils lui mettent des bandelettes sur le corps et principalement autour du cerveau, parce que ce qui comptait, c'était pas que. Il faut refroidir tout le corps pour que ça soit une température générale pour le corps, mais l'important, c'était le cerveau. Et donc, on redescend à, je sais plus, peut-être 34 degrés, 35 degrés, je sais plus. Et là, c'était parti pour la grande aventure. Emma était en coma pendant 5-6 jours. Et 5-6 jours qui m'ont paru des années.
Oui, j'allais te dire comment tu vis ce moment-là.
On a été entouré de bienveillance partout. Notre sage-femme s'est occupée de nous extrêmement bien. S'est démerdée pour que je puisse habiter à l'hôpital avec Sacha. Donc on dormait dans un petit lit, une place à deux. Des nuits terribles où je l'entendais pleurer, j'entendais Emma pleurer. J'entendais ses cris de naissance qui me revenaient en tête. Je me réveillais en pleurs. On était sous, comment ça s'appelle ? Xanax, voilà.
Xanax, ok.
J'étais dans une situation hyper délicate où je devais décider ce qu'on faisait à un moment donné. C'est pas que j'y croyais pas, c'est que moi, à un moment donné, il fallait que j'y croie, mais en même temps, il fallait que je me dise, si jamais tout se passe mal, il faut que je puisse prévoir le coup pour, ne serait-ce que pour exemple, la chambre du bébé. S'il faut tout dégager, il faut tout enlever pour une autre aventure. Donc réfléchir à tout ça, ça a été extrêmement lourd, sans parler une seconde à ma femme, évidemment.
Tu voulais pas partager avec elle, c'est ça ce genre de...
Non, ça non, ça Sacha, elle était concentrée, et ça je partageais ça aussi avec elle, mais elle était concentrée sur une chose, c'est que tous les jours on avait un droit de 2 à 3 visites par jour pour aller voir Emma en réa, et on était concentrés, elle était que là-dessus, et c'était évident qu'elle devait se concentrer que là-dessus, et moi si je devais réfléchir à un moment donné, et je vais aussi expliquer là très vite pourquoi j'ai dû réfléchir encore plus concrètement à un moment donné, bref, on a eu des situations où ma pauvre Sacha qui a les seins remplis de lait et qu'il faut faire sortir le lait, je sais plus comment on dit,
il faut pomper,
voilà, et on n'avait pas de machine à pompe là, voilà, et c'est ma belle-mère qui a massé les seins de sa fille. J'étais pas là, hein. ils ont fait ça toutes les deux, et Sacha avait une douleur pas possible, elle m'a raconté après qu'elle hurlait, enfin voilà, toute ma vie je sais que jamais je pourrais vraiment pas comprendre, mais avoir une idée de la souffrance qu'elle a pu traverser, de voir notre fille sans vie dans le lit à côté d'elle. Littéralement, elle l'a sauvée.
Oui, parce que si elle ne l'amenait pas à cette infirmière, forcément la petite...
Exactement. Mm. C'est juste qu'à un moment donné, elle n'entendait pas trop respirer, parce qu'en fait, Emma avait un léger... c'est pas un souffle au cœur, mais comme on dit... Non, c'est pas un souffle au cœur, mais un léger petit sifflement quand elle respirait. Mm. Et qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Est-ce que ça a duré 3 minutes ? Est-ce que ça a duré 5 minutes ? Est-ce que ça a duré 10 minutes ? On ne sait pas. Et que voilà, j'ai une femme qui est extrêmement forte. C'est un rock, ma femme. C'est une des particularités quand même des femmes russes, pour beaucoup. C'est des femmes très puissantes. Et c'est là qu'on a commencé à déclencher toutes les énergies possibles. C'est-à-dire qu'on a mis en courant tout le monde. On s'est vite dépêché d'aller déclarer Emma Moi, à la préfecture, à l'ambassade de France, ma femme, enfin mes beaux-parents à la préfecture de Moscou, pour qu'elle existe le plus vite possible. Tous les jours, on allait donc en réa. J'avais une mini enceinte et je lui faisais écouter de la musique d'un mec qui s'appelle Nils Fram. Je conseille énormément à tout le monde d'écouter, un pianiste allemand qui est un néoclassique, magnifique, grandiose. C'est une vision très très dure. J'ai même eu la sensation à un moment donné que c'était que le fait de l'avoir réanimé, j'avais dans ma tête cette pensée très bizarre de me dire est-ce que c'est une autre existence. C'est-à-dire est-ce que l'enfant que j'ai eu dans les bras qui est né est parti à ce moment-là, et le retour, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je pense que c'est une pensée qui ne sert pas à grand-chose, mais je me suis posé la question.
Je me demandais un peu combien de temps ça avait duré, parce que en fait, pour moi, le vrai truc, c'est que ça ne dure pas un jour ou deux, c'est ça, c'est long.
C'est 5 jours, 6 jours.
Wow.
Et ça a paru une éternité, en fait, c'était le protocole, ça durait 5-6 jours, parce que donc en fait, Emma et ses bandelettes qui l'avaient refroidi, et c'est le protocole qu'il fallait durer 72 heures, donc 3 jours, plus un jour de plus, si je me rappelle bien, pour le temps de la faire revenir à une température normale et de voir ce qui s'est passé.
Et pendant ces 5 jours-là, vous ne savez pas du tout dans quel état elle va revenir, en fait.
J'y arrive tout de suite. La voir comme ça, elle avait un peu gonflé à cause des médicaments anticonvulsifs et tout ça. Et elle n'était pas bleue, mais tu vois, elle avait un teint blanc, tu vois. Et ce petit bout d'amour, cette toute petite chose qui est comme ça, qui est tenue en vie par tout ça, enfin, intubé et compagnie, c'est une image très violente. Puis au bout de 3 jours, je crois que c'est 2 jours, la veille de faire revenir sa température normale, la chef de Réa nous prend dans son bureau et nous annonce qu'il y a 1% de chance qu'elle s'en sorte.
Wow.
Et qu'il n'y a aucun signe d'activité dans son cerveau, quoi. Et que peut-être, alors Sacha avait raconté ça aussi dans une interview ici, elle avait donné une interview pour un magazine d'ailleurs de femmes, de mères, et elle a raconté, alors moi j'ai un peu zappé ça, j'avais pas l'impression qu'on l'avait dit, mais bon, bref, en fait elle avait dit que va falloir réfléchir à un moment donné à débrancher, quoi.
Oh, ok.
Donc on sort de là, ma femme à bout, par terre, moi qui comprends pas ce qui se passe, qui est complètement déboussolé. Évidemment, au moment donné où elle dit, il faut réfléchir à débrancher, je dis, pour l'instant, on n'en parle pas, je veux pas en entendre parler pour l'instant, c'est pas ce qui est en question. D'abord, on la remet à la température normale et après, on en parle. Ce qu'ils avaient un peu oublié quand même, et c'est d'autres médecins qui nous ont parlé, c'est que quand même, quand tu refroidis, normalement, avec les anticonvulsifs, quand tu refroidis, alors je sais plus si c'était le fait de l'avoir refroidi ou les anticonvulsifs, mais quand tu as ce niveau de dose d'anticonvulsif, t'es pas censé attendre de l'activité d'activité du cerveau, en fait. C'est okay. Quand justement tu commences à réduire les doses, ou quand tu commences à la remettre à sa température normale, que là tu fais des conclusions. Et donc le lendemain, on a rencontré un pop qui est venu baptiser Emma en salle de réa. Alors ça aussi, c'est une image assez folle. Moi, ma femme, ma belle-sœur, qui est donc aussi la qui a été pour le coup la marraine, et ma sœur aussi qu'on a fait venir. Et en fait, juste pour le petit truc, comme c'est Emma, c'est pas un nom orthodoxe, il lui a donné un nom aussi Maria, et en fait, ce qui fait qu'après, on l'a déclarée, elle s'appelle Emma Maria. Et voilà, donc, on va arriver dans l'action. Le vendredi, donc, le lendemain, on essaie de la faire revenir à la température normale, et on descend légèrement les taux convulsifs. Et là, des signes prometteurs. Donc, en une journée, en 24 heures, Emma a montré des signes positifs. On ne pouvait pas savoir comment sera son cerveau, mais en tout cas, elle a montré des signes d'activité du cerveau. Donc, on a changé d'hôpital. On est allé dans un autre hôpital où on est passé en soins intensifs pour enfants. Là, ça a duré peut-être 3 semaines. On a vu un premier médecin qui nous a dit... qui était un mec assez marrant, un géorgien, un gros monsieur bronzé qui te parle comme ça, tu vois, qui est bien, enfin voilà, qui se dit bon, votre enfant, on va le sauver, nan, nan, enfin hyper positif, qui nous a donné vraiment de la force. Donc voilà, aussi des scènes assez ouf, pas assez ouf, hein, c'est des sensations, c'est des choses qui je me rappellerai toujours. En fait, on avait des heures de visite dans cet hôpital. Au début, Emma était nourrie par sonde nasale, parce qu'il fallait bien s'y mettre aussi. Les anticonvulsifs baissaient de plus en plus. Et nous, en fait, on avait une heure, genre, je sais pas, tu vois, genre à midi, on pouvait venir la voir. Et puis nous, les matins, donc on était retournés à l'appartement. Et nous, tous les matins, on partait, je sais pas, à 9h ou 10h du matin, ou même pas, on arrivait 2 ou 3 heures à l'avance avant la visite, on continuait notre nuit dans la voiture, en fait. On dormait dans la voiture, devant l'entrée de l'hôpital, et ensuite on y allait, quoi. Et voilà, et les choses se sont faites doucement, mais sûrement, et... on a changé d'hôpital encore une fois. Emma commençait à montrer des signes normaux. Elle tétait, elle voulait téter. Donc, ça, c'est très important aussi de montrer ça, qu'elle montre ça. Les analyses sont de mieux en mieux. On a arrêté complètement les anticonvulsifs. Et voilà, on s'est retrouvé après dans un service de neurologie postnatale. Donc, on a fait quand même 3 hôpitaux en 2 mois. 2-3 mois. Et puis voilà, ce qui fait que mi-décembre. Emma et Sacha sont sortis sans séquelles.
Donc, combien, 1 mois et demi, 2 mois après sa naissance, ouais. C'est ça,
ouais. Okay. Je le dis une première fois, Emma est une miraculée, c'est complètement hallucinant et c'est pas encore fini. On en est qu'au début.
Comment tu le vis, toi, ce moment de sortie? Parce que j'imagine que c'est pas aussi simple que c'est bon, elle est sauvée, non?
Ben, si.
Ouais.
Ce que tu dis là, en fait, c'est pour ma femme que c'était ça, en fait. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Et dans sa tête, elle n'arrivait pas. Elle avait peur que ça se reproduise, en fait. Et moi, je suis le gamin, le mec un peu immature que je raconte depuis le début. Et j'ai tendance à occulter, mais parce que j'oublie pas les choses, mais à pas penser au négatif et à pas me faire de soucis. À être donc un peu insouciant. J'occulte pas les choses, mais je reste un peu insouciant. Et donc je dis, bah, c'est bon, ok, on avance. On continue, super, génial. Et je pense qu'il y a à apprendre. Et quel bonheur de les avoir, d'avoir mis tout notre appart dans des ballons avec des gros trucs Emma, maison et compagnie. Aller les chercher, mon beau-père avait géré le coup. On avait pris un minibus pour que tout le monde puisse loger dans le minibus. Voilà, jusqu'à fin janvier, on a une visite de contrôle. Un mois et demi, 2 mois plus tard, on a une visite de contrôle chez cette femme, dans le dernier hôpital où on a été, donc la neurologue. On lui montre Emma, et puis, bah, écoute, aucun signe extérieur de souci, ça a l'air de le faire, quoi. Donc on va continuer à contrôler, et puis d'un coup, la nana, elle nous fait... La
neurologue.
Elle nous fait... écoutez, moi, franchement, ça me dérange, ça me...
Perturbe.
Ça me perturbe, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est qu'en fait, dans vos analyses d'après-réanimation, Emma avait un taux de sucre à zéro, donc de glucose à zéro dans le sang. Et si on comprend pas pourquoi, enfin, c'est pas normal. Elle nous fait aller faire ces analyses. Donc, elle nous envoie faire 2 analyses qui sont surtout des analyses, en fait, je crois qu'on peut dire métaboliques, où en fait, ça analyse comment ton corps, ton métabolisme fonctionne avec le gras. Et les différents éléments que tu lui apportes, les enzymes et tout ça. Et aussi différents trucs sur l'électricité que tu as dans les muscles, enfin voilà. Et tombe, une semaine plus tard, tombe les analyses sur tout le métabolique, ça s'appelle un profil des carnitines. Et là, elle nous rappelle, elle fait, vous foncez tout de suite au service de maladies génétiques rares, de tel hôpital, donc l'équivalent de Necker de Moscou. J'appelle tout de suite, je vous prends rendez-vous, si vous y soyez aujourd'hui ou demain matin, ne traînez pas s'il vous plaît.
Wow.
Là, on commence à flipper.
Rebelote, c'est reparti.
Rebelote. On se retrouve dans ce service qui est le seul de Moscou, donc service des maladies génétiques et héréditaires. Et puis au bout de quelques jours, le diagnostic tombe plus ou moins, le pré-diagnostic. Et donc Emma a ce qu'on appelle une maladie, un déficit des acides gras, juste parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à bien le prononcer. Mais je vais le dire, donc c'est VLK, c'est une maladie héréditaire de l'oxydation mitochondriale des acides gras à chaîne longue. Sauf qu'Emma, c'est à chaîne très longue, voilà. C'est l'acyl-CoA des hydrogénases des acides gras à chaîne très longue. C'est une enzyme dépendante de la membrane mitochondriale interne, voilà. Pour le petit moment médical. Et c'est une maladie génétique qui a été confirmée après par des analyses ADN qu'on a fait avec Sacha.
Ça veut dire que vous êtes tous les deux porteurs, c'est ça, d'un gène?
D'un gène, et en étant ensemble, et c'est un cas sur 500 000. Et encore plus la probabilité que moi je viens de France, née à Nantes et ma femme née en Sibérie à Irkoutsk, à côté du Baïkal, que ça, voilà, qu'on se rencontre comme ça, c'est hallucinant. On se déconne avec ma femme en disant qu'on est un peu comme des frères et sœurs. My brother from another mother. Et voilà, donc gros coup sur la gueule. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est le chaos total. C'est le chaos total parce que tu rentres dans quelque chose que tu connais pas du tout, où ça a l'air très sérieux. Et en fait, il se trouve que Emma a besoin d'avoir un régime hyper strict et hyper suivi. Sinon, ses risques de recrise cardiaque, son métabolisme peut attaquer ses organes parce que son métabolisme ne gère pas les acides gras. Emma, qui était nourrie donc entre décembre et janvier, qui était nourrie d'abord au lait maternel et après au lait en poudre, c'était déjà une prise de risque. Ouais. C'est-à-dire que même sur cette période-là, Emma aurait pu refaire une rechute. Mmh. Quoi. Encore une fois, pour redire à quel point ma fille est miraculée et que...
Oui, c'est ouf parce que ce qui l'a amené à faire un arrêt cardiaque le deuxième jour, en fait, vous avez reproduit après le même régime, quoi.
Exactement. Wow. On n'avait aucun signe, aucun truc, aucun diagnostic, rien du tout.
Bien
tu
sûr.
Vois. Emma, à ce moment-là, commençait à développer un rejet de la nourriture. Et en fait, en plus de l'histoire des acides gras, il faut, avec sa maladie, il ne faut surtout pas qu'elle soit à jeun. Il ne faut surtout pas qu'elle commence à être à jeun. Sinon, justement, pareil, elle fait ce qu'on appelle une crise métabolique. Et donc, le métabolisme commence à attaquer le corps, quoi. Enfin, il commence à bouffer. En fait, comme il n'arrive pas à... Les acides gras, c'est ton énergie. Mmh. Et c'est aussi ce que ton métabolisme stocke. Et c'est ce qui fait que quand tu es à jeun ou quand tu es en effort physique, c'est là où ça pioche, en fait. C'est là où toi, tu arrives à tenir le coup. Et voilà, Emma, elle, son métabolisme n'arrive pas à faire ça. Et en fait, lui, où est-ce qu'il va piocher? Il va d'abord faire une crise métabolique, il va créer des enzymes qui sont un peu dangereuses pour les organes, notamment le foie, le cerveau, le cœur. Mais en plus de ça, il se met à puiser dans le glucose que t'as dans le sang. C'est pour ça qu'Emma avait zéro de glucose dans ses années après la réanimation. Et quand t'as zéro taux de glucose dans le sang, c'est coma. Donc voilà. Après, on a commencé à rentrer dans le cercle de tout ça. Donc, du côté russe, moi, du côté français, j'ai trouvé un groupe Facebook de soutien. J'ai commencé à m'activer vraiment. Et on s'est bougé, quoi. C'est là où on est passé dans l'action. Et c'est là où, en fait, l'esprit d'équipe a vachement bien marché avec Sacha. Qu'on assure, quoi. Qu'on est là pour Emma et qu'on, petit à petit, on s'est fait nos armes.
Il y a beaucoup de cas en France, par exemple, sur
pas
une
beaucoup,
population.
Non, il y en a peut-être une vingtaine, je crois.
Oh, putain.
Après, il y a plusieurs niveaux de cette maladie. En fait, oui. Les chaînes longues, les chaînes très longues, les chaînes moyennes, mmh. ça fait des maladies plus ou moins différentes, okay. Des symptômes qui sont un peu ressemblants, mais qui sont plus ou moins graves, plus ou moins dangereux. Nous, on a de toute façon ce qu'on appelle une forme sévère, parce que c'est une forme natale. Il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie avec, donc, pas porteur comme moi, mais avec un gène malade, donc avec la maladie, mais ça peut se déclencher à 40 ans, quoi. Et c'est une forme sévère. Donc à 40 ans, d'un coup, tu ne comprends pas. Tu as un des symptômes aussi qui peut être fort, c'est ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. C'est des énormes courbatures, c'est des douleurs musculaires très fortes. Et ça veut dire que tu es en crise métabolique aussi. Et il ne faut surtout pas être malade, parce que pareil, quand tu es malade, même un rhume, ton corps pioche aussi dans tes acides gras, dans tes réserves, pour pouvoir tenir le coup. Emma, c'est pareil, quand elle a chopé une bronchite, ce que chopent tous les enfants voilà, en avril... Et là, recoup dur, obligé d'aller à l'hôpital, hospitalisation, son nasal, parce qu'elle refuse complètement la bouffe et qu'elle vomit tout. Qu'elle est complètement prise en plus. Perfusion de glucose, ça c'est un des trucs obligatoires en crise métabolique. Va faire une perfusion qui doit tenir à un enfant de quelques mois.
Quelques mois, oui.
Les veines sont hyper fragiles et hyper petites. Donc... on a subi des trucs où, en fait, la perfusion sort de la veine et t'as le glucose qui commence à s'entasser sous la peau. Ça fait des œdèmes. Donc ça, on l'a vécu 2-3 fois. Plus tu rajoutes ça, au final, effectivement, moi, un jour, en avril, donc je reviens du boulot. Enfin, c'est le jour, en fait, le lendemain qu'elle a eu sa bronchite. Et je savais pas à ce moment-là... Enfin, si Sacha m'avait écrit sur WhatsApp, genre... Bon, on lui a posé une sonde nasale, ça y est, c'est fait. C'est ce qu'on avait le plus peur, en fait, à ce moment-là. Parce qu'on nous avait dit, si elle commence à refuser de manger, on va être obligé de lui poser une sonde nasale. Moi, dans mon insouciance un peu, entre mars, donc entre pause de diagnostic en février jusqu'à avril, moi, je devais aller au boulot aussi. Et Sacha vivait un enfer à la maison parce que Emma refusait de manger. Et elle, en fait, Emma était partie dans, avait développé un truc où elle acceptait de manger que dans le sommeil, en fait.
Donc, sommeil.
Endormie, on lui filait le biberon et elle mangeait le biberon jusqu'au bout, que endormie. Le reste du temps, c'était non. Et en fait, c'est un truc aussi qui développe, qui est normal, ça, c'est psychologique. C'est qu'en fait, il y a une sorte de pression par rapport à tout ça. Je pense qu'elle a dû le ressentir. Et Emma s'est mise à catégorie, je ne veux pas manger. Moi, je reviens donc du boulot le lendemain de cette histoire de bronchite où elles sont hospitalisées. Je débarque et je vois Emma, les gars, les infirmières, elles lui avaient posé un plâtre sur le visage, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc moi, je suis arrivé ça, j'étais sous choc. Voilà, c'était une des premières fois où j'ai vraiment montré que j'étais choqué, que j'étais depuis la réanimation. J'ai vu Emma, je suis resté 10 minutes, je l'ai regardée, j'ai dit à celle-là, je peux pas, je vais me cacher dans les toilettes, j'ai complètement craqué, quoi. J'ai lâché les nerfs, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va, quoi.
Tu parlais dans ton mail du fait que tu avais eu un peu de mal à trouver ta place, aussi dans cette période.
Même la période, plus encore la période d'après, parce qu'en fait, Sacha et sa relation avec sa fille, avec sa fille, mon Dieu, avec notre fille, avec Emma.
C'est aussi la sienne.
Oui, voilà. Mais c'est aussi la nôtre. c'était pour connoter la force de leur lien. Donc évidemment, c'est sa fille et elle l'a sauvée. Elle l'a protégée. Et moi, à un moment donné, effectivement, moi, je suis là plus pour régler les problèmes à un moment donné aussi à l'extérieur. Donc, effectivement, quand il y a des aberrations, que ce soit d'ailleurs dans les hôpitaux en France ou en Russie, on en parlera aussi pour la France, parce qu'on a fait Necker quelques mois plus tard. En Russie, on est dans un hôpital pour enfants. Ils te font des ordonnances de médoc parce qu'en fait, donc, on découvre en même temps que Emma a. Alors, c'est pas une insuffisance cardiaque, mais une atrophie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à un des ventricules de son cœur.
Okay.
On peut pas savoir si c'est à cause du fait qu'elle est restée trop longtemps à un moment donné sans avoir le bon régime, ou si c'est des séquelles de la réanimation. Mais pourtant, à l'époque de la post-anérie réanimation, ils avaient rien vu comme ça, quoi. Mais elle avait eu un truc, voilà, qui ça, il fallait lui mettre sous antibloquant direct, quoi. Pas de pharmacie hospitalière au truc, et c'est à moi de me démerder pour aller trouver des bêta-bloquants un dimanche, ou un samedi, je ne me rappelle plus, dans des pharmacies spécialisées qui font les préparations en pharmacie, quoi. Et sur le moment, il me les faut. J'ai traversé tout Moscou, et en fait, il se trouve que ma femme est un peu blogueuse Instagram, elle a une quinzaine de milliers de followers. Ma femme et sa famille sont un peu là-dedans, c'est-à-dire que ma belle-mère a presque 10 000 followers et ma belle-sœur a 250 000 followers. C'est énorme.
Okay.
C'est une influenceuse, mode, lifestyle, voyage.
Okay.
Donc on est un peu dans le truc. Et donc en fait, on sollicite énormément l'Instagram de ma femme et parfois l'Instagram de ma belle-sœur pour trouver des solutions en fait. Et là-dessus, la bienveillance des gens. Moi, je suis pas forcément fan de tout ce côté exposition. Je suis même plutôt contre, mais cette partie-là, je ne pourrais jamais...
Mais c'est de l'entraide, à ce moment-là.
J'ai eu de l'entraide de folie, on a eu de l'entraide de folie, parce que de toute façon, en plus, Sacha, petit à petit, s'est positionné de photographe, un peu blogueuse, voilà, à, en fait, Instamama. Bon, maintenant, je me bats pour l'interdire de diffuser trop de photos de Emma, ou de dos, parce que là, non, ce n'est pas possible avec tout ce qui se passe, en plus. Donc, voilà... Ça a fini par payer à un moment donné. Mais voilà, bref. Et en fait, on s'est mis à chercher une pharmacie. On est tombé par l'Instagram de ma femme. On est tombé sur quelqu'un qui était la fille ou une connaissance d'un des patrons d'une grosse chaîne de pharmacie de Moscou. Et le patron, est allé chercher une de ces pharmacies qui était une de celles qui faisait des préparations en pharmacie, qui était à l'autre bout en banlieue de Moscou. J'ai traversé toute la ville pour aller. Voilà, c'était là où moi j'étais en tout cas utile. Et on retournait donc en finale tout ce qu'on pouvait, toutes les pierres possibles, on les retournait pour pouvoir trouver ce genre de solution quand on en avait besoin. On a eu notamment, là on va passer à l'autre partie, qui est le fait que Emma a besoin d'un ce qu'on appelle un lait métabolique. Il a fallu trouver, ça s'appelle Monogène, c'est français, c'est Nutricia, c'est une des filiales de Danone. Et on a dû. Ça c'est pas vendu en Russie. Ils n'ont pas la licence commerciale. Et ça, c'est déjà suffisamment scandaleux. Donc, nous, on est à peu près dans notre maladie, on est une dizaine de familles, hein, à peu près. En tout cas, dans notre spectre à nous. On est une 10-15aine de familles en Russie, tu vois, sur toute la Russie. Donc, tu vois aussi, c'est pas beaucoup.
Wow.
Donc, au final, moi qui ai enregistré Emma avec son passeport, qui a le passeport de la nationalité française, on essaie de savoir comment choper ce lait. Ce lait, on peut le choper soit d'une manière à l'acheter. Le truc coûte, une boîte coûte 25 euros quand même. Et dis-toi qu'Emma, une boîte en régime d'urgence, donc on a ce qu'on appelle un régime d'urgence, et si elle en est en crise, elle est nourrie toutes les 3 heures par la sonde nasale à ce moment-là. Et en fait, on a dû trouver ce lait, et donc 25 euros la boîte, et dis-toi qu'une boîte, ça tient 3 jours en régime d'urgence.
Ah ouais.
Donc,
c'est un budget.
À 250 balles par mois, quoi. Facile. Donc voilà, ça fait partie des trucs un peu compliqués. C'est à Tallinn, tu vois, qu'on a trouvé. C'est là où certaines familles d'ici de Moscou récupèrent les boîtes, se fournissent. Et moi, je suis passé par donc la caisse des Français à l'étranger. J'ai fait déclarer Emma en tant que puisque donc elle a le droit d'être dans le spectre des maladies invalidantes. Elle a le statut, la carte d'invalidité. Et tous les mois, on reçoit donc chez mes parents. J'ai fait une demande spéciale et on reçoit le fameux lait. Après, j'ai contacté Necker, en fait. Necker nous a fait les ordonnances. Il y a un service spécial équivalent de Necker. Et donc voilà. Tout ça grâce à cette femme, cette docteure neurologue, je l'appelle la docteure House russe, qui n'a
pas lâché le morceau, quoi.
Exactement. Ça a été la course tout le temps. Donc moi, effectivement, j'étais positionné là-dessus. Et effectivement, je me suis moins occupé. Enfin, je suis très proche de ma fille, mais je me suis moins occupé à ce moment-là de ce qui se passait. Et j'avais aussi une partie où je te cache pas que j'avais une façon de fuir les choses. Un peu.
Peur.
Ouais, j'ai eu peur. Et donc, dès que j'avais une possibilité de sortir, d'aller boire des coups avec des potes ou un truc dans le genre, je le faisais, quoi. Et au bout d'un moment, ça s'est ressenti un an plus tard. On a failli se séparer avec ma femme. Et en fait, j'ai juste compris que c'était juste par rapport au fait que j'avais une façon de fuir les choses, mais que j'avais aucun intérêt, aucune envie vraiment de les fuir. Donc, encore une fois, c'était juste ma façon un peu insouciante et infantile de gérer les choses. Et derrière, je sais que je n'avais pas du tout envie de... Enfin, c'était...
Ouais.
Courage fuyons un peu, mais...
Pas trop de suivi psychologique en Russie pour ce genre de cas.
Moi, j'avais un psy. Je faisais une thérapie depuis pas mal d'années. J'avais des choses à régler et j'ai trouvé un psy russe qui a fait ses études en France, qui parle parfaitement français, qui m'a été très bien. Vraiment, ça m'a permis de débloquer beaucoup de choses.
Okay.
Donc oui, mais pas trop. J'étais pas trop. J'étais dans l'action à ce moment-là, donc je l'ai pas trop vu.
Je comprends.
Donc,
il y a un temps pour tout.
On peut peut-être parler, si tu veux, de la partie père et de mon père. En fait, mon père, lui, derrière, en Russie, était en train de faire banqueroute. Et il était en burn-out depuis des années. Et disons que, sans aller dans le détail, ça a failli très mal finir. Exactement la même période.
Okay.
Et donc, ça a été aussi, cette partie-là a été très difficile. C'est ce que j'expliquais au début, que j'ai un peu une relation fusionnelle avec mon père. J'ai une relation d'admiration, mais j'ai aussi beaucoup de, comme tout enfant, beaucoup de griefs contre lui, de toute façon. Je lui en veux pour beaucoup de choses, mais voilà, c'est quelqu'un de très, très charismatique et c'est quelqu'un qui a une très grosse ombre, sans le vouloir vraiment. Donc ça a été toujours sur moi, autant positif que négatif, on va dire.
Et le fait de devenir papa, t'as pas aidé à régler quelques griefs, notamment contre lui, tu vois, de se rendre compte à quel point c'est... Bah, en plus, t'as une situation un peu particulière, mais à quel point c'est compliqué d'être papa.
Oui et non. Oui, c'est compliqué d'être papa, je suis tout à fait d'accord. La seule différence, c'est que mon père a toujours eu justement tendance à fuir un peu les choses et lui, il le fuyait dans le travail. Et mon père est une bête de travail, mais vraiment, c'est un psychopathe. Il pouvait travailler 24 heures, faire des nuits, des journées de 24 heures. Je m'en suis rendu compte même très tard qu'effectivement, même quand j'étais gamin, j'ai toujours été très en demande de mon père et ça a vachement influencé sur qui je suis. C'est que je suis toujours très en demande des gens ou très... Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, il y a quelques années en plus, que j'avais une façon de créer des amitiés avec des gens qui étaient des amitiés de que je regarde d'en haut, en fait, des gens que je mets sur des piédestals,
oui.
Des admirations en fait que j'essaie de créer, alors que voilà, c'est des amitiés, je suis pas censé fonctionner sur l'admiration avec les gens, c'est moi, je me mets en porte-à-faux en plus, je me mets plus bas, voilà. Mais c'est un réflexe que j'ai avec mon père, j'ai recherché beaucoup l'attention, la présence de mon père. Et lui, c'est pas, il me rejetait pas. C'est un père très aimant aussi. C'est pour ça que c'est difficile de lui en vouloir aussi sur certaines choses. Mais c'est quelqu'un qui a aussi mis une priorité dans sa vie, qui était plutôt le taf que la famille, quoi. Moi maintenant, il y a un truc qui me paraît évident, c'est que je veux mettre la priorité. J'ai envie de me réaliser professionnellement, même si je reproduis un peu, parce que ma femme me dit que je reproduis un peu les trucs de mon père, que je me mets à trop travailler, que ça arrive que je travaille très tard le soir, et que voilà, mais que tu vois, depuis même au moment du confinement, le bon du confinement, c'est que je me suis vachement rapproché d'Emma, et que maintenant il y a un rituel quasiment, c'est que c'est tous les soirs, c'est moi qui l'accouche, c'est moi qui lui chante des berceuses en français, c'est notre rituel, c'est hyper important, et c'est vraiment maintenant, c'est devenu, c'est exceptionnel si c'est pas moi, quoi.
Et tu penses que le fait que ton père a eu ce genre de soucis, ça t'a renvoyé, toi, ta propre image de père à ce moment-là, c'est ça? C'est pour ça que tu voulais en parler à ce moment-là?
Non, je voulais en parler parce que c'est dans la chronologie du truc, premièrement, c'est que c'est le moment où, en fait, au moment où moi j'étais en recherche, donc c'était au mois de mai, donc 2018, on était en train de nous s'adapter. Entre-temps, on avait déménagé chez mes beaux-parents parce que ma femme me l'avait demandé. Parce que oui. C'était trop dur pour elle toute seule toute la journée, évidemment. Donc voilà, mes beaux-parents ont un peu de place, ils ont un appart avec deux étages, donc c'était super, quoi. Donc on y allait, et moi ça m'a juste rajouté une heure de trajet pour aller au taf, mais je m'en fous. Mais je fais presque une heure et demie tous les jours, trois heures de transport tous les jours, mais c'est pas grave. Et puis au moins Sacha était en sécurité et pouvait avancer. Et voilà, et derrière, ben, dans toute cette tornade-là, mon père, lui, est parti en sucette de son côté, quoi. Et voilà. Et moi, je m'occupais de tout le monde, quoi.
Toi, il n'y a personne qui t'aide, j'ai un peu l'impression.
Non, pas vraiment, non. Mais je peux parler avec ma femme, ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas la notion aussi où je dis pas mes problèmes à ma femme, je cache les choses. Je suis un peu un livre ouvert de toute façon, donc je dis facilement les choses. Donc c'est un truc qui sert et qui dessert aussi, mais c'est vrai que moi j'ai pas la force de garder mes frustrations, mes problèmes, mes trucs. Je sais pas faire, donc ça sort. Oui. Parfois ça sort avec, peut-être pas avec les bonnes personnes. Parfois ça sort avec la plupart du temps ça sort avec les bonnes personnes, mais. Et donc en fait, dans notre malheur, dans tout ce qui nous est arrivé, on a une chance, mais tellement inouïe.
Je voudrais essayer de venir un peu plus à comment ça se passe aujourd'hui.
Aujourd'hui, donc en fait, très rapidement, donc en fait, après tout ce qui s'est passé, on a fait un passage à Necker, qui a été aussi très difficile parce qu'on était venu pour faire juste un deuxième avis, donc dans un département spécialisé qui, eux, ont plus d'expérience que Moscou, notamment. Ils ont voulu nous changer, pour dire à quel point tout est délicat, en fait, avec cette maladie, ils ont voulu nous changer de lait. Qui était le même genre de lait métabolique, mais qui était d'une autre marque. Emma l'a très mal supporté. Les protocoles ont fait qu'ils ne comprenaient pas qu'elle le supporte mal. On était venu pour deux jours d'hospitalisation, on est resté trois semaines. On a fait un passage en réanimation encore. On a failli perdre Emma. À cause du fait que les mecs ne voulaient pas se dire une seule seconde. Et ça fait trois mois que Emma a le bon lait, a son bon régime. Vous voulez changer un peu parce que c'est votre protocole, parce que voilà. J'ai dû leur faire la guerre, mais au début, c'est difficile d'aller contre les médecins. Tu dis, voilà.
Sure.
Je dis, ils savent ce qu'ils font, surtout que je suis dans un service spécialisé. Et en plus, moi, j'ai amené ma femme là-dedans pour avoir peut-être un espoir plus tard de rentrer en France parce que je ne veux pas vivre ma vie en Russie. Voilà, ça a complètement biaisé l'image de Sacha de la France parce qu'elle était obligée de rester à Necker pendant que moi je dormais chez ma sœur qui était à Montparnasse à côté. Juste pour donner un exemple, en fait, il y a des enzymes, il y a une donnée d'enzymes dans les analyses de sang qui s'appelle la créatine phosphokinase. Et en fait, normalement, dans ton corps, c'est environ à 100-200. Et ça monte en général chez les gens normaux, quand justement tu fais du sport et que tu as des courbatures. C'est ce qui te crée des courbatures en général. Donc ça monte un peu. Mais ça va être entre 100, 200, 300. Et moi, en crise métabolique, normalement, elle peut monter jusqu'à 5000, 10000.
Ah oui.
À Necker, elle était à 120000. C'est le moment où en fait, on était entre différents hôpitaux et qu'on est en région parisienne, au début où ça se passait mal. Son corps n'arrivait pas à se restabiliser. Et on est retourné à Necker. Et on a fait donc les fameuses trois semaines où, au final, on a fait soins intensifs, réanimation, soins intensifs, On est revenu dans le truc, dans le service. Ils nous ont remis au même lait, alors qu'on leur disait qu'on ne se sentait pas. On espérait pouvoir partir. On avait pris un avion. On changeait tous les 2-3 jours d'avion, quoi. De billets d'avion. Rebelote et m'a refait une rechute. Retour en soins intensifs. Perfusion hyper compliquée à mettre. Emma, de toute façon, son nasal. Voilà. Donc, en fait, où est-ce qu'on a. Voilà, je passe ça. Au final, j'ai réussi à les convaincre qu'il faut se remettre au lait, au monoëgène, le fameux. On rentre en Russie. Alors là, moi, je suis dans un état. Je comprends rien de ce qui se passe. Donc, effectivement, entre-temps, au bureau, ils ont essayé de me virer. J'ai eu des gens qui m'ont protégé. J'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. On nous avait conseillé quelque chose, c'était deux nouvelles armes qui étaient très importantes. C'est qu'en fait, c'est faire poser ce qu'on appelle une gastrostomie à Emma. Donc c'est comme un petit bouton de ballon de baudruche dans le ventre. Et c'est ce qui permet en fait, c'est une connexion directe à son estomac. Ce qui permet de se débarrasser de la sonde nasale, qui est une horreur, qui est vraiment difficile. Parce qu'on a vécu des choses affreuses où Emma, en fait... la sonde nasale la dérange à l'intérieur, elle se met à vomir, elle revomit, la sonde ressort par la bouche, mais reste quand même du côté du nez. Mais des situations mais hallucinantes. Je me souviens aussi de ces sensations la nuit où moi, en fait, je ne suis pas tranquille et puis j'essaie de repartir un peu dans mon côté un peu insouciant. Bon, ça va, on a la sonde, on a le truc. Je me rendors et en fait, on sait que Emma commence à bouger parce qu'en fait, la nuit, elle a on a une machine, une pompe qui lui envoie de la nourriture pour la nuit, toujours dans la même idée où il ne faut pas qu'elle soit à jeun. Donc ouais. En fait, on a un truc qui lui envoie genre 30 millilitres par heure, donc c'est quoi? C'est deux gorgées par heure, mais c'est un truc qui tient, qui fait que jamais le corps est sans énergie. Et quand à un moment donné, Emma est trop sensible à ça, ou que voilà, son corps ne a du mal à tenir la bouffe, elle commence à bouger, j'entends Sacha qui est à côté de moi, qui se lève d'un coup, qui la chope, qui attrape Emma, parce qu'il faut de la mettre sur le côté, parce qu'à ce stade-là, si elle peut s'étouffer dans son vomi, des situations, mais voilà. Et ça te fend le cœur, ça se fait du mal de devoir lui retirer la sonde et il faut la remettre après, la refaire passer, envoyer de l'air pour être sûr par la sonde, écouter son estomac pour entendre que l'air passe dans l'estomac et que la sonde n'est pas passée dans les poumons. Enfin, tu vois, c'est vraiment des choses lourdes à vivre.
Oui, vous finissez par le faire vous-même. Forcément.
Ah oui, on n'a pas d'infirmière pour faire ça. On nous apprend justement, en fait, c'est ce que nous avait appris parmi les quelques bonnes choses que nous a laissé Necker, c'est l'expérience. Vous nous dire, c'est vous allez devenir parent expert. C'est vous qui allez savoir ce qu'il lui faut. Et parce que de toute façon, c'est des maladies individuelles. Encore plus qu'elles sont rares, c'est encore plus individuel par personne. Enfin, toutes les maladies, tous les cancers sont individuels par personne. Enfin bref. On rentre en France, Necker nous a conseillé de réfléchir donc à la gastrostomie et à le PAC, un port à cathéter, qui est normalement un truc qu'on donne aux gens qui ont le cancer ou qui ont le sida par exemple, qui ont des chimiothérapies, qui est donc un petit bouton aussi sous la peau et qui à l'intérieur, tu as une valve qui est connectée à une veine centrale, à une des veines centrales du cou. Et ce qui fait que toi, donc c'est ce qui fait qu'on a une entrée directe vers une des veines centrales où on peut faire des perfusions, des prises de sang et on touche plus aux petites veines de ma fille. Que tu vois, à force, la gamine se retrouve avec des hématomes, des trucs, enfin, tu vois. Donc on rentre à Moscou, on se restabilise petit à petit et puis on prend la décision, on dit bon, on va aller faire ces opérations-là, ça suffit. Donc ça, c'est fin 2018. C'est ça. On fait l'opération, gros stress, mais voilà, c'est un truc qui s'est très rapide. Hein. Ça a pris une demi-heure, une heure, enfin voilà. Pauvre Emma qui est complètement. Elle est déjà. C'est une enfant très joyeuse parce que je pense que ça vient de Sacha et de moi. On lui donne beaucoup d'amour. Elle sourit beaucoup depuis toujours. Elle sourit énormément. Mais elle est tendue. C'est un enfant tendu, tu vois. Par la sonde nasale, tu vois, tout le temps, tout ça. Donc le fait de s'être débarrassé de la sonde, ça a été vraiment une libération, et à partir de là, on a commencé à vraiment avancer, à faire nos marques. On peut avoir des crises métaboliques, voilà, donc maintenant, on avance. On peut arriver aujourd'hui, Emma a eu 3 ans il y a 3 semaines. On n'est jamais à l'abri d'une crise métabolique, on commence à apprendre à gérer les choses de chez nous. On s'est arrangé qu'une infirmière qui parfois vient elle-même pour faire les prises de sang, n'est pas par le port, parce que c'est, tu vois, pas n'importe quelle infirmière le fait, ouais. Par le port à cathéter. Mais non, on a une. Voilà, on s'est fait nos armes, on a nos soldats, on gagnera aucune guerre parce que la guerre, c'est pour toute la vie. Mais on a toutes les armes pour réussir les batailles et pour confronter n'importe quelle situation. Je touche du bois, mais pour l'instant, effectivement, Emma n'a pas eu de grosse grippe, elle n'a pas eu de... Depuis la dernière bronchite, elle n'a pas eu de gastro. La gastro, terrible, ça, c'est le pire pour nous. On a vraiment peur de la choper. Soit pour une raison évidente.
Bien sûr.
Franchement, Emma s'en sort plutôt bien. Alors j'espère que ça veut dire qu'elle a aussi un système immunitaire qui fonctionne plutôt bien. Là, on vient d'avoir une surprise hallucinante. Donc, comme on n'a pas pu se voir, quand on n'a pas pu se voir la semaine dernière, ça plaît la semaine dernière. Emma était aussi un peu malade en même temps que moi. Bon, moi, j'avais une angine, donc je me cachais pour rien lui refiler. Mais elle avait un bon petit rhume. Et on est habitué dans ces moments-là à avoir des signes de crise métabolique. Donc, elle revomit ou des trucs dans le genre. Et donc, c'est hôpitaux. À certains moments, on décide si on va s'hospitaliser ou pas. Mais c'est à ce point-là. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas prendre trop de risques.
C'est sûr.
Et on a fait faire des analyses de sang. Elle a des analyses de sang, nickel. Aucun signe de crise métabolique. C'est la première fois. C'est pas vraiment normal, hein, mais c'est super. Mais c'est juste que ça nous conforte dans le fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, en fait.
Oui, puis j'imagine que vous allez continuer à apprendre tout au long de sa vie, quoi.
Totalement. Et on va continuer à faire en sorte que nous, les armes qu'on a faites, ça soit ses armes à elle et qu'elle puisse se défendre. L'une des armes aussi principales, qui n'est pas médicale, mais qui est une question du développement de l'enfant, c'est le fait qu'elle communique. C'est le moment où elle est enfin devenue capable de dire les mots. Alors, je ne sais pas, ça, pour moi, ça ne veut rien dire en russe. Sacha a inventé un mot. Moi, je l'associe au mot berk, beka. Donc, beka, ça ne veut rien dire pour moi en russe. Ça s'approche du mot berk. Et en fait, c'est Emma, quand elle a des nausées qu'elle vomit, elle hurle, elle dit beka. Donc, on sait, elle parle en russe, elle me comprend en français. Je ne lui parle qu'en français, mais elle ne parle pas vraiment en français avec moi. Mais elle comprend tout. Voilà, en russe, elle communique, elle dit quand ça va pas, quoi. On sait les choses. Et oui. L'époque où c'était un petit bébé qui pouvait pas communiquer, mais t'es vraiment dans le flou, dans le brouillard total, quoi.
Et comment elle vit aujourd'hui alors? Parce que 3 ans, ça y est, c'est une petite fille, quoi.
C'est une petite fille. On a énormément. Enfin, c'est un amour de fille. Je t'entends souvent parler dans tes podcasts, c'est d'avoir des filles. Moi, j'ai des potes qui ont des garçons, je sais que c'est un ouragan pour eux. Avoir une fille, c'est tellement de tendresse, c'est tellement. Je suis complètement gaga d'elle. Et en plus, moi, j'essaie parce que justement, en relation avec ce que je t'expliquais avec mon père, c'est que j'en ai parlé à l'époque, il y a eu des séances que j'ai avec mon psy, une des dernières, je ne sais plus, il y a un an, tout dans le genre, j'ai dit j'ai peur d'être trop en demande avec elle, en fait. Et je veux pas qu'elle subisse maintenant la pression que moi, que j'aurais pu mettre à des amis. Voilà. Et donc, j'essaie de me retenir, d'apprendre à me retenir, de ne pas trop lui en demander, de viens faire un câlin à papa, viens voir papa, tu vois. J'essaie de la laisser venir, lui laisser sa liberté, c'est vachement difficile. Mais.
C'est un chemin.
Ouais. Mais c'est très important, ouais. C'est très très important de surtout pas biaiser la relation que j'ai ou l'image de père que je vais avoir pour elle. Avec papa et. Enfin, tu vois, je l'ai senti à un moment donné, au bout d'un moment où tu demandes trop de câlins et qu'elle t'en pousse, ça suffit, fous-moi la paix, quoi.
Oui.
Je veux pas. Voilà. Parce qu'après, tu pars comme un con dans une idée de rejet. Ah, ma fille me rejette.
Non. Faut pas apprendre des choses égotiquement quand t'es parent. Sinon, c'est pas bon.
C'est terrible.
Ce sont des êtres humains à part entière.
Exactement. Et ils ont leur choix, leur voilà. Et donc, comme je te disais, au moins, on veut lui donner toutes les armes possibles. Donc, on commence les choses doucement. On a de la chance d'avoir des petits jardins d'enfants où ils sont 5-6. Surtout qu'après l'histoire de confinement, les trucs dans le genre. Il y a à Moscou, il y a plein de petits jardins d'enfants privés. Donc on est dans un endroit vraiment bien, qui sont vraiment basés sur le développement classique, avec un peu de, comment ça s'appelle, Montessori, enfin ce genre de choses. Et on suit le truc tout doucement. On fait, franchement, moi déjà l'école, c'est pas quelque chose, enfin c'est important, mais c'est pas quelque chose qui doit être en premier plan de la vie. Et donc, je n'aurai jamais aucune pression de où Emma doit aller. Et moi, j'ai une particularité que je ne t'ai pas racontée, c'est qu'en fait, j'ai été dans une école super, une école de la vie, on peut dire. C'est une école qui s'appelle Toulouse-Lautrec, qui est à Vaucresson dans le 92, en région parisienne. Et c'est une école qui mélange handicapé physique et valide, et enfant valide. Et je me suis retrouvé là-dedans. Ma mère m'a mis, après avoir redoublé ma quatrième dans une école privée, Cato et compagnie, ma mère a entendu parler de cette école, elle a dit peut-être que ça pourra lui faire du bien, de toute façon. Et donc j'y suis allé, ça n'était pas facile au début, c'était quelque chose où il fallait se confronter au monde handicap. Mais après c'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre et qu'au final on est tous pareils et qu'on est tous égaux et que tu passes le cap de la, c'est terrible à dire, de la pitié ou du peur que ça, de l'image que ça te renvoie à toi. On est des enfants, j'avais 15 ans, donc voilà, c'était au collège. Et tu vois, comme d'une certaine manière, comme si ça m'avait préparé à ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec ma fille, ouais, tu vois, c'est assez fou. Et j'étais avec des enfants de tout type d'handicap, des enfants qui ont des malformations de naissance, des enfants qui sont en handicapés moteurs avec trachéotomie. On avait vraiment de tout, mais des enfants qui sont avec un cursus scolaire quasiment 95% pareil qu'une école normale. Sauf que nous, les valides, on a une certaine responsabilité d'entraide. Que ce soit sortir les cahiers des cartables, écrire les devoirs ou enfin, des trucs dans ce genre-là. Et c'est quelque chose qui était vachement formateur pour moi et c'est une école que je trouve vraiment géniale. Et c'est une école qui était à petits effectifs en fait par classe, donc on était maximum 15. Et ça, je trouve que c'est partie des choses qui sont vachement importantes, quoi. Et on peut revenir aussi à ce que j'écoutais de... Je sais plus comment il s'appelait. Il y a deux personnes qui m'ont marqué dans l'histoire de Daron. C'est celui qui fait l'école à la maison... qui a fait l'école à la
Freddy.
Maison.
Ouais.
Voilà. Et alors non, ça c'est autre chose, c'est celui qui donne les cours de paternité. Les cours de paternité qui m'a vachement...
Ah, Gilles, oui c'est ça, voilà, les cours du futur papa. Okay.
Je l'ai réécouté dans Les coups sur la table.
Oui,
je crois qu'il était. Passé, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Donc des gens hyper intéressants. Donc juste c'est l'histoire de Freddy qui, moi je pense pas vouloir aller jusque dans l'histoire de l'école à la maison parce que je pense qu'il y a quand même, il faut une vraie disponibilité que je me sens pas aussi donner pour ma vie professionnelle aussi à moi et que je veux pas que ma femme donne. Ma femme est très présente, elle est en freelance, elle est photographe, elle se développe énormément. Elle est vraiment en train de développer sa carrière tout en réussissant à être vachement présente à la maison. On vit toujours chez nos beaux-parents après 3 ans. Ça c'est des petits soucis de côté où on a acheté un appart mais on n'arrive pas à trouver un crédit pour faire les travaux. Donc on est un peu niqué là-dessus, mais bon, ça viendra. À 35 ans, habiter chez tes beaux-parents, c'est difficile pour...
Oui, j'imagine, pour votre vie de couple, là, ça doit être...
Et puis c'est difficile pour moi aussi, ouais, de... Je suis pas dans mon... C'est pas mon royaume, c'est pas moi, oui. C'est pas mon chez-moi, je suis pas... Et pourtant, derrière, j'ai des beaux-parents exceptionnels, des gens hyper, hyper sympas, et hyper présents, mais ils vivent leur vie, et moi, j'ai pas à voir comment ils vivent leur vie, j'ai pas... Et eux, ils n'ont pas à me subir. Enfin bref, c'est l'histoire appartement communautaire en Russie. C'est une grande histoire.
Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. J'allais te remercier et te poser ma fameuse dernière question. Peut-être que tu avais des trucs à ajouter.
J'avais des trucs peut-être à ajouter sur les maladies rares. Je voulais juste parler de ça. Moi, je suis en train d'essayer de bosser avec une scénariste pour pouvoir parler un peu de cette histoire de maladies rares et de maladies métaboliques, aborder certains sujets... Il y a un truc qui est très important, qui s'appelle le screening postnatal, qui est un truc qui doit se développer en France. Je ne sais pas à quel point il est développé en France. Je suis en train, moi, de récupérer des informations là-dessus, en tout cas pour la Russie. Et en fait, que ça vaut le coup de dépister ces choses-là, réellement, qui peut être dépisté dès le premier jour de naissance, pour être sûr de ne pas tomber là-dessus. Parce que vous ne vous rendez pas compte, je parle aux gens qui nous écoutent, le nombre de personnes qui ont, dans notre histoire, qui ont perdu dès leur premier enfant. Et c'est ce qui nous était, ce qu'on a risqué, ce qui nous est quasiment arrivé. Ouais. Des gens qui ont pas eu de diagnostic, qui ont perdu un, deux enfants, ou qui ont posé un diagnostic trop tard et qui se sont retrouvés avec des enfants qui, justement, ont eu des séquelles très graves par rapport à des crises métaboliques ou des crises qu'ils ont subies. J'ai des histoires de famille qui sont des gens très forts, qui ont réussi à avancer dans la vie, qui n'ont pas laissé tomber, qui ont fait des enfants après, qui n'ont pas oublié leurs enfants, qui sont perdus. C'est des vrais combattants, des guerriers, ces gens-là. Et donc c'est quelque chose qu'il faut penser. Et tout le monde, on a tendance à fermer les yeux aux difficultés de la vie, comme face au handicap, voire dans la rue, tu vois, l'inclusivité, ou je sais plus comment on dit.
Ouais.
C'est des choses qui sont très importantes à considérer et ça fait partie aussi justement aussi de pas oublier que ça peut arriver à tout le monde, même si c'est des choses rares et qu'elles restent rares évidemment, mais des problèmes génétiques, j'ai un peu peur qu'avec ce qui se passe dans le monde et avec les problèmes de pollution et tout ça, on est en risque que ça continue à se développer, quoi. Donc voilà.
Ok.
Je vais passer ce message de que les gens pas faire flipper les gens, parce qu'il y en a qui disent pas non plus la peine de faire flipper les gens. Mais c'est bien de, de, d'en parler avec son médecin, de discuter, de dire est-ce qu'on peut faire un screening, est-ce qu'on peut faire un test ADN. Ça coûte, enfin ça peut parfois coûter un billet, mais ça, voilà, ça vaut le coup de savoir si toi avec ta femme t'as pas des gènes qui se voilà, ce genre de choses.
Bah, merci beaucoup Romain pour ton témoignage. Tu connais la dernière question sur le site. J'imagine si t'as l'habitude d'écouter
l'histoire. Je l'avais oublié. Non, je l'avais oublié. J'ai l'habitude, je la connais, mais je l'avais oublié.
Ok. Donc bon, la question est simple. C'est en fait si Emma écoute cet épisode dans 10 ans et que peut-être elle réécoute ou qu'elle vient d'entendre son père parler de ses 2-3 premières années ensemble, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Elle, tu auras 13 ans.
Allez,
elle sera une ado et tout, elle sera là. Ouais, le vieux con.
J'espère bien qu'on sera des vieux cons et que voilà. Ça lui permettra de se rebeller. Et lui dire, Emma, si tu m'écoutes, je vais essayer de pas craquer. Je veux que tu saches à quel point tu le sais, à quel point on t'aime et à quel point on sera toujours là pour toi. Et que je sais, de toute façon, t'es déjà. À 3 ans, en 3 années de vie, tu nous as donné tellement de leçons, tu nous as rendu tellement forts qu'en fait, c'est même pas, j'ai même pas besoin d'être forte parce que tu l'es pour toujours et tout se passera bien. Je le sais, tout se passera très bien.
Je te sens. Tu sais quoi, ça fait plus d'une heure et demie que tu parles là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui t'écoutent, Romain, dans ta vie.
Si, ça va. C'est juste que ouais, je suis un peu loin de mes potes à moi. Mais si j'ai une équipe, mais j'ai besoin de faire sortir les choses et c'est pour ça aussi que je t'avais écrit parce que c'est aussi de parler avec quelqu'un comme toi qui est complètement extérieur à tout ça et tu fais énormément de bien. Vraiment, je tenais à te le dire à force d'avoir écouté tous tes projets, enfin surtout l'histoire de Daron, tu fais beaucoup de bien et vraiment merci de ce que tu fais pour les pères, parce qu'on a besoin, parce qu'il y a une partie émotive, il faut qu'on réussisse à s'exprimer, à exprimer nos émotions, ne pas en avoir honte, et que c'est aussi, ça fait partie de nos forces, et ta démarche est sociale, quoi, enfin c'est nécessaire, et lâche pas, continue, vraiment merci.
C'est prévu de ne pas lâcher. Mais en fait, c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout, quand j'ai lancé Histoire de Daron, avoir autant de... comment dire permettre à autant de mecs de pouvoir parler et de me rendre compte à quel point les mecs ne parlaient pas, en fait. Tu vois, donc, d'être une oreille, tu vois, sans le savoir vraiment au départ.
Bah, tu l'es clairement. Et encore une fois... Chacun sa merde aussi dans sa maison, et c'est pas parce que un tel, voilà, on a tous nos soucis. Et j'ai longtemps vécu moi avec mon histoire dans l'école pour handicapés, avec l'histoire de j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas de quoi me plaindre. Oui, on n'a pas de quoi se plaindre peut-être par rapport à d'autres, mais faut affronter ses problèmes et être conscient que t'as le droit de.
C'est pas pour ça que t'as pas de soucis, quoi. C'est pas parce qu'il y a plus grave ailleurs que il faut pas que tu règles tes trucs et que t'en parles. Oh, merci beaucoup Romain.
Merci encore pour ta bienveillance.
Avec grand grand plaisir, vraiment. Je vous souhaite tout le meilleur avec Emma et Sacha. Et puis peut-être un petit deuxième.
Si t'as une dernière minute, tu vois, tu me relances. Voilà, c'est encore dans l'histoire des screenings et tout ça. C'est quelque chose qu'on va réfléchir parce que en fait, dans notre histoire avec nos gènes, on a 25% de chance d'avoir un enfant non malade.
Ok.
Il y a 25% de chance qu'elle soit pas du tout porteuse. Il y a 25% de chance qu'elle soit porteuse. Il y a 25% de chance qu'elle soit malade. Ou peut-être 50% de chance que l'enfant soit malade. Pas qu'elle, excuse-moi, okay. Que l'enfant soit malade. Mais il y a une histoire que j'arrive pas encore, j'ai pas eu lucidée jusqu'au bout. Il y a une histoire de screening des trois mois, donc une prise de sang dans le ventre aux 3 mois. Et dès là, on peut savoir apparemment si elle a une maladie métabolique, si son métabolisme ne fonctionne pas normalement. Ou peut-être un test ADN, je ne sais plus exactement. C'est encore un peu frais, on en parle avec Sacha. On veut en faire un deuxième. Sacha était, parce que je lui ai demandé 100 fois, mais elle est même capable de se dire que s'il faut faire plusieurs avortements en 3 mois parce qu'on est conscient que c'est un enfant qui peut être malade. Voilà, on connaît une famille russe ici qui ont un premier enfant malade comme Emma. Et ils en ont fait un deuxième sans même réfléchir. Et pareil, malade pareil, mais eux, voilà. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir faire subir... égoïstement, j'ai pas forcément envie de subir encore ça parce que en plus ça peut être un problème, enfin ça peut être moins d'attention pour Emma. C'est quand même difficile de gérer deux enfants avec cette même maladie en même temps.
Bien sûr.
Tu me diras, tu peux. Enfin, bref. Donc, voilà, je suis pas, moi, je suis pour l'avortement. Enfin, je suis pour de ce qu'on fait, ce qu'on veut avec son corps. Et donc, si Sacha, elle est d'accord, moi, je suis pour de réfléchir à ça et de se démerder pour avoir un enfant qui sera en bonne santé, qui pourra aider Emma aussi, et pour qui Emma apportera aussi de la force supplémentaire que d'autres enfants dans une famille normale ne pourraient pas avoir. Donc voilà, ouais, deuxième enfant, j'espère. On y réfléchit. D'ici un an ou deux, on va commencer à faire les choses sérieusement.
Merci encore, Romain.
Merci. Merci pour toutes tes questions.
Plein de bonheur à tous.
Exactement.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.